I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode vous est présenté avec l'édifiante participation de Baramut, Julien Chauss, Cédric, Michel Gauthier, Erwan, Cédric Huppert, Alexis Yard, Clément Dutoit, Notvalou et Fenris. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on couvre, où on vous parle de l'actu tech, internet et gadgets. On analyse tout ça, on suit tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous les resserre, épurer, émincer, expliquer tout pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe dans ce monde si important de la tech sans avoir besoin de passer des dizaines d'heures à écumer vous-même les blogs. Je suis Patrick Béja et qui voilà avec moi, qui m'accompagne encore aujourd'hui, mon ami J.K. Loret, qui en plus d'être un excellent analyste jeux vidéo ludique, est aussi donc un journaliste émérite dans le domaine de la tech. Comment ça va, J.K.?
Écoute, ouais, ça va. Je pense qu'il faudra que tu rallonges, toutes tes émissions, le rendez-vous J.K. à un moment donné, parce que ça fait deux fois de suite que je suis là. Et du coup,
vrai.
Je prendrai 40% de ton Patreon au passage, hein, évidemment.
Pas de problème. Écoute, on s'arrange comme ça.
Mais par contre,
je crois que t'as jamais été dans Positron encore.
Non, c'est vrai.
Il y a peut-être une piste de réflexion
là,
à faire.
Écoute,
là.
Le défi est lancé.
Bon,
donc niveau recommandation, moi j'ai de quoi faire.
Bah, écoute, très bien. On va réfléchir. On va soumettre ça au comité de sélection. Et puis,
ah oui, par contre, le jury, ouais.
Ah bah oui, bien sûr. Il y a, tu sais maintenant que French Spin est une SAS. il y a tout un tas de comités, de réunions, de brainstorming. Oui. Tu vois.
C'est je me rends compte de la chance que j'ai.
Responsable.
Hein.
Bon, merci, trêve de plaisanterie. Merci en tout cas d'être avec moi pour cette émission également. On a un programme qui est pas trop chargé. En ce moment, on a quand même la conférence F8, la conférence des développeurs de Facebook, où Mark Zuckerberg a fait une présentation assez intéressante. Moi, j'ai trouvé qu'il prenait une orientation particulièrement intrigante. Il y a aussi une série de news et rumeurs sur des résultats de recherche informatique qui sont un petit peu surprenants, des nouveaux appareils qui sont assez enthousiasmants et à la fois intrigants. Donc on a pas mal de choses qu'on va couvrir. Je vous propose de nous lancer immédiatement donc avec ce fameux Facebook F8. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le F8 donc est la conférence de développement de Facebook qui a lieu depuis quelques années déjà. On sait bien que Facebook est une immense force de l'industrie de la tech et de l'internet en général et du web en particulier. Et donc ils ont une conférence de développeurs spécifiquement conçus pour leur plateforme, au même titre qu'on peut avoir une conférence chez Microsoft ou chez Apple ou chez Google. Donc là, c'était la conférence de cette année présentée par Mark Zuckerberg. Avant de rentrer dans les détails, je disais que Zuckerberg avait pris une orientation différente et intéressante, c'est-à-dire qu'il a établi la roadmap, le plan, la direction qu'ils allaient prendre pour les 5 et pour les 10 ans à venir pour la plateforme de Facebook en fait. Je suis curieux, J.K., toi qui suis, comme on le disait, l'actu tech de très près, est-ce que ça t'évoque quelque chose, cette idée de faire une présentation en disant voilà où on va pour les 10 ans à venir?
Bah, c'est quand même relativement rare, effectivement, quand tu compares avec Google I/O ou les conférences Build de Microsoft. C'est des conférences qui sont là pour te... C'est l'inverse. Ils te présentent des nouveautés qui arrivent, genre, ce soir, tu vois, ou demain. Enfin, j'exagère un peu, mais la plupart du temps, c'est des choses à court terme, avec, justement, des choses qui vont tout de suite faire rêver les développeurs parce que c'est disponible tout de suite. Avec eux... Effectivement, ils ont une sorte de vision à très long terme. Et quand tu vas en parler après, mais quand tu vois certaines choses annoncées, tu te dis c'est presque de la science-fiction, quasi. Enfin, j'exagère un peu, mais ça, c'est vraiment des choses qui sont pas pour tout de suite demain, mais effectivement qui dans 4, 5, 10 ans seront là. Donc pour le coup, c'est parmi des très grosses boîtes tech, c'est les seuls, je te crois, à faire une roadmap aussi loin, aussi loin.
C'est les seuls, c'est la première fois qu'ils le font, si je ne m'abuse. Et puis effectivement, comme tu le disais, généralement dans ces grosses conférences qu'on couvre ici dans le Rendez-vous Tech régulièrement, ils parlent de ce qui se passe pour l'année à venir, parfois un petit peu plus loin, mais voilà, généralement c'est ça. Donc là, c'était vraiment intéressant. Et puis tu sens que Zuckerberg, on le dit souvent, mais Zuckerberg a une intelligence pour son produit, une compréhension de son produit qui est assez exceptionnelle. On l'a constaté, on sait que Facebook reste aussi fort et même continue à grandir et à se renforcer au fil des années. Et ce qu'on a tendance à oublier, par contre, c'est que ils ont traversé énormément de choses dans le domaine des réseaux sociaux, du net en général. Il y a eu une adaptation du produit qui a été incroyablement intelligente. Pour Facebook lui-même, on se souvient qu'il y a eu un moment où il y avait plusieurs réseaux sociaux concurrents, il y a eu l'arrivée du partage public qui a commencé à être la norme, ils sont orientés vers le partage public, maintenant ça c'est revenu un petit peu en arrière, il y a eu les orientations vers le téléphone. Au bout d'un moment, Zuckerberg a décidé: on est une mobile first company et on va développer tout ce qu'on fait pour le mobile avant tout. Ça aussi, ils étaient un petit peu en retard là-dessus, mais je veux dire, il y a plein d'autres sociétés qui n'ont pas eu l'intelligence de voir les évolutions du truc. Il y a le partage des images. On sait qu'ils ont racheté Instagram. Il y a le partage, les communications en direct. Ils ont racheté WhatsApp. Ils ont même développé Messenger en le séparant de Facebook au moment où ils l'ont fait. C'était curieux comme l'idée d'avoir plusieurs applications différentes pour une même plateforme.
Quitte un peu à l'imposer aux utilisateurs, puisque quand on est sur mobile, on est obligé, au bout d'un moment, si on veut recevoir des messages Messenger, on est obligé d'installer Messenger, ce qui est quand même, ce qui a toujours été, ce que j'ai toujours trouvé un petit peu limite.
De ce point de vue. Et pourtant, ça a quand même fonctionné.
Voilà, je crois qu'aujourd'hui, maintenant
c'y
est fait.
C'est ça. Aujourd'hui, ça a l'air assez naturel. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, quand il parle, disons que n'importe qui d'autre dirait dans 5 à 10 ans, voilà ce qu'il y aura, ou en tout cas voilà vers quoi on travaille. J'ai tendance à prendre des choses avec un petit grain de sel.
Mais c'est ça. En fait, c'est une société qui a pas cette espèce d'inertie que peut avoir des grosses sociétés comme Microsoft, et ils ont une capacité d'adaptation et de vitesse d'adaptation incroyable, quoi. En 10 ans, ils ont été créés en 2004, ça a été créé en 2004. Donc en 12 ans, ils ont évolué à une vitesse mais qui est vraiment impressionnante, quoi.
Ouais, et il y a d'autres sociétés qui sont à peine plus vieilles, qui n'ont pas eu cette vision. On pense immédiatement à Yahoo, bien sûr, qui est maintenant en train d'être vendu à Dieu sait qui pour Dieu sait combien.
En train d'être démembré.
C'est ça. Bon, ils sont un peu plus vieux que 10 ans, mais quand même.
Oui, quand même.
Donc bon, on va parler de, on va diviser en deux parties. D'une part, leur projet à 5 ans. Et ensuite les projets à 10 ans. Et donc je vais couvrir un petit peu rapidement les projets qu'ils ont évoqués sur 5 ans, et puis on va en discuter, et puis ensuite pareil sur 10 ans. Alors, il y avait deux orientations spécifiques qu'ils ont évoquées pour ces 5 prochaines années. La première, c'était un truc dont beaucoup de gens parlent et dont on a parlé aussi pas plus tard que au précédent épisode que j'avais fait tout seul. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui ont qui ont répondu en disant que ça leur avait beaucoup plu. Il y a eu pas mal de gens qui ont dit ça, donc merci beaucoup à vous. Mais donc on parlait de Microsoft qui développait une infrastructure pour l'utilisation des bots. Donc ces robots de discussion dont on entend beaucoup parler en ce moment, eh bien Facebook se lance dans la danse aussi, et c'est incroyablement naturel puisqu'ils ont d'une part Messenger et d'autre part WhatsApp, qui à eux deux sont les deux plus gros services de messagerie, en tout cas en Occident et sans doute dans le monde. Et donc ils sont en train de lancer une plateforme de développement pour Messenger avec ces chatbots, donc ces robots de discussion qui vont permettre de faire plein de choses. Et il y avait des exemples intéressants qu'il donnait. Il disait ça peut être un service hyper pratique. Par exemple, si vous suivez CNN, une chaîne d'information, ils peuvent vous envoyer un résumé quotidien des informations intéressantes, et puis vous répondez, n'oubliez pas que vous êtes dans cette interface de chat, vous répondez et vous dites « Ah, j'aimerais bien avoir plus de détails sur telle histoire, tel sujet », et il vous renvoie un article un petit peu plus détaillé sur ce sujet. Il y a plein d'informations comme ça. Il y a un autre exemple qui serait pour commander des fleurs. Il disait, il travaille avec un gros livreur de fleurs aux États-Unis, et il serait très simple d'envoyer un message à ce robot, de donner les détails, et puis simplement, sans avoir à aller sur un site web, à remplir un formulaire, à rentrer tous les détails, peut-être même les détails sur la carte bleue, puisque Facebook peut déjà les avoir, eh ben, vous pouvez commander des fleurs très facilement, comme ça, en discutant avec un bot. Il y avait plein d'autres éléments qui étaient aussi tout aussi intéressants. Et la deuxième orientation sur les 5 ans, c'est le live streaming. Ils ont énormément insisté là-dessus, et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi dans l'émission il n'y a pas si longtemps que ça avec Jérôme. Le live streaming est l'autre orientation qu'ils prennent, et ils veulent que n'importe qui soit capable de live streamer de n'importe où, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ouvrent leurs interfaces de programmation, leurs API, à n'importe qui et à n'importe quelle machine. Donc, ils voudraient que les constructeurs ou les producteurs de télévision ou d'autres choses puissent très facilement intégrer le live streaming vidéo à Facebook, à leur caméra, à leur drone, à leurs events, à n'importe quoi. Donc, le live streaming, il y croit vraiment à fond, Zuckerberg. Il n'est pas le seul, mais il met toute la puissance de Facebook derrière cette orientation pour que Facebook devienne une plateforme privilégiée pour le streaming vidéo en live à l'avenir. Donc voilà, les deux grandes orientations, chatbot et live streaming. J.K.
Ce qui sont déjà des bons gros projets. Après, c'est vrai que le live streaming, tu sens que il voit la concurrence de Periscope, bon, qui met dans la marge de mieux en mieux. Hein. Moi, même autour de moi au quotidien, je vois de plus en plus de Periscope. C'est assez fou. Et lui, évidemment, il veut aller beaucoup plus. Enfin, il a l'air de vouloir aller plus loin, beaucoup plus loin que ce que fait Periscope aujourd'hui. C'est tout à son honneur et de toute façon, le live streaming, ça va être une des grosses tendances de ces 5 prochaines années. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec le chatbot, tu sens vraiment qu'il veut devenir la principale plateforme du web en général, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas de beaucoup de gens, des gens qui, pour eux, Internet, c'est Facebook. Et ben là, ce sera encore plus. C'est-à-dire que ça va quasiment devenir une sorte de pseudo moteur de recherche. Tu pourras, enfin, d'après leur ambition, c'est vraiment, voilà, ce sera à la fois de l'information, à la fois du e-commerce. Enfin, c'est assez gigantesque comme ambition. Après, je sais pas si ça va prendre auprès. Je pense que ça prendra clairement auprès justement des nouvelles générations qui sont habituées à vivre avec Facebook au quotidien. Pour des gens comme moi, par exemple, perdre le réflexe de passer par Google pour choper des infos sur CNN ou commander les fleurs, c'est quand même pas gagné. Mais clairement, ils visent les nouvelles générations avec ce type de fonctionnalité, quoi.
Et puis si l'interaction est plus simple et moins prise de tête, ça peut devenir, bon, c'est évidemment ce qui est vraiment intéressant. Enfin, il y a deux choses qui sont fascinantes. C'est d'une part qu'il réussit, comme je le disais tout à l'heure, à intégrer les nouvelles tendances systématiquement dans Facebook. On se souvient qu'à un moment les photos c'était le truc hyper important. Bah, il a réussi à les intégrer. Les groupes publics, il a réussi à les intégrer. Enfin, vraiment, il ne rate aucune tendance importante et on a l'impression qu'il sait deviner lesquelles seront vraiment intéressantes à intégrer et lesquelles il peut négliger. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression qu'il en ait raté. Enfin, il en a raté vraiment aucune, quoi. Et quand il les a ratés un tout petit peu, il a très vite rattrapé son retard. Et donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose, c'est que là, il parle des tendances à 5 ans. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de gens qui voient les évolutions des chatbots et des du live streaming et qui se disent « Ah bah oui, c'est le truc du moment maintenant, voilà comment ça marche, voilà comment c'est aujourd'hui, donc voilà ce que c'est ». Lui, ce qu'il dit et ce que dit Facebook, c'est que là, on est au début de ces tendances et que on peut imaginer que enfin ne pensez pas à ça aujourd'hui, pensez à ce que vous pouvez construire pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Et bon, maintenant ça commence à être vieux, mais les smartphones les smartphones, c'est l'exemple qu'on prend toujours, mais ils ont transformé l'industrie de l'informatique et ils n'ont que 10 ans, les vrais entre guillemets smartphones, ils ont moins de 10 ans. Donc on peut tout à fait imaginer qu'aujourd'hui les chatbots, bah oui, c'est pas encore ça, mais à 5 ans, ça pourrait vraiment avoir une influence importante sur la manière dont on interagit avec les services en ligne et les marques ou les comment dire, bah
les commerçants.
Les commerces, voilà, merci. Les commerces avec lesquels on veut interagir, quoi.
Mais
vas-y, pardon.
Non, c'est vrai que lui, c'est clair qu'il voit au-delà largement même du smartphone. Enfin, je veux dire, le smartphone est installé depuis 10 ans, ce qui est peu finalement. Mais aujourd'hui, ça y est, le smartphone, il est installé, c'est une technologie qui est éprouvée. Et je pense que lui, il voit déjà la suite du smartphone, d'une manière ou d'une autre, que nous, on n'imagine même pas forcément. Quand il dit qu'il veut faire du live streaming sur des drones, on peut imaginer vraiment, forcément, le live streaming, on pense aussi à la réalité virtuelle. Où il y aura du streaming à 360 degrés. Enfin, tout est lié, en fait, par rapport à ces projets, quoi.
C'est sûr. Je sais pas s'il voit au-delà du smartphone. Encore que, oui, effectivement, la réalité virtuelle, ça peut aller plus loin. Et justement, tiens, parlons-en. Dans leur projet à 10 ans, il y avait 3 axes de réflexion qu'ils évoquaient. Je dis au pluriel, mais c'était vraiment Zuckerberg au nom de la société. Il y avait 3 axes. Le premier, c'était de connecter encore plus de monde, de connecter tout le monde à Internet. On sait qu'aujourd'hui, il y a entre 1 et 2 milliards de personnes qui sont vraiment connectées à Internet. On se rapproche de, on est autour de 2 connectées vraiment de manière fiable. Mais ça laisse quand même 4-5 milliards de personnes en plus qui ne sont pas connectés à Internet. Rendez-vous compte à quel point c'est on n'est qu'au début de toute cette évolution. Donc, connecter tout le monde à Internet. L'intelligence artificielle, c'est le deuxième axe. Et la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont le troisième axe. Pour le premier axe, donc connecter tout le monde à Internet, ils ont évoqué le projet Aquila, qui est en fait un immense avion, enfin un immense, pardon. C'est une aile volante, en quelque sorte, solaire bien sûr, qui peut voler pendant plusieurs mois et qui vole à 20 km de hauteur et qui envoie une connexion vers le sol de manière relativement fiable. Et là, ils ont un prototype qui fonctionne, mais ils vont continuer à faire évoluer la chose. Il y a aussi des satellites. Ils sont en train de travailler sur l'idée de connecter les gens par satellite avec peut-être leur propre réseau. Mais c'est pas les seuls moyens qu'ils ont pour essayer de connecter tout le monde à Internet. Ils ont aussi des axes de réflexion sur le fait de baisser la consommation de données. Parce que plus on consomme de données, plus ça demande de la bande passante, plus ça demande des connexions solide. Donc, avec des connexions un petit peu moins solides, c'est évidemment plus facile quand on a des quantités de données moins importantes. Ils travaillent là-dessus aussi. Ils travaillent sur une infrastructure open source pour les fournisseurs d'accès, de la même manière qu'ils ont leur Open Compute, qui est une infrastructure open source pour les serveurs. Donc là encore, l'idée que l'open source, le fait de partager les connaissances, de partager la recherche, peut au final devenir bénéfique pour tout le monde sur Internet. C'est un petit peu la même idée que Google, que si plus de gens utilisent Internet, et ben au final on en bénéficie. Et il y a aussi l'idée des free basics qui sont un petit peu, comment dire, chahutés dans certains pays en voie de développement ou semi-développé, parce que c'est une moitié d'Internet qu'ils offrent gratuitement à certains internautes, notamment par mobile. Ils continuent tout de même à pousser cette initiative. On pourrait en discuter ailleurs, c'est pas forcément le lieu ici, mais ils poussent cette initiative également pour offrir gratuitement certains services, dont évidemment, on s'en doute, Facebook. Le deuxième axe, c'est donc l'intelligence artificielle. Il a évoqué une idée qui était assez intéressante, qui était aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, enfin sans intelligence artificielle, il est assez difficile de recommander des sujets ou des mises à jour, des updates ou des articles à leurs utilisateurs, parce que ils sont obligés de se baser sur ce que les personnes qui ont partagé ce sujet ont aussi partagé, ce que vous avez aimé, que d'autres personnes ont aimé quand elles ont aimé ce sujet, etc. Il disait qu'avec l'intelligence artificielle, c'est un truc auquel on pense pas forcément. Nous, on pense tout de suite aux assistants virtuels, etc.
Jarvis, quoi.
Voilà, c'est ça. Lui, il pense à une toute autre utilisation, qui est l'idée que une intelligence artificielle peut reconnaître les sujets qui pourraient vous plaire, en allant au-delà de simplement les métadonnées qui sont associées à ce sujet, et vous proposer des mises à jour, des sujets sur Facebook ou peut-être ailleurs, hein, qui pourraient vous intéresser. Ça, c'était une orientation intéressante. Et puis enfin, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Ils évoquaient d'une part le fait que ça a le potentiel d'être une plateforme, la plateforme la plus sociale qui soit. Parce qu'on a vraiment cette virtualisation de la présence, on a l'impression d'être en présence de l'un l'autre, en fait. Donc c'est vraiment extrêmement intime, c'est très social. Donc c'est ce qu'il évoquait. Il disait aussi on était vraiment au début de ces casque de réalité virtuelle. À terme, dans 5 ou 10 ans, il imagine, lui, que ça sera les casques seront des simples lunettes qui auront un aspect de simples lunettes pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc on est encore là encore qu'au début, et il voit ça à 10 ans. Là, on n'est même plus, la réalité augmentée, ça commence vraiment à peine. Il faut penser à ce qu'était l'iPhone et les tout premiers vrais smartphones il y a 10 ans, ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a quand même eu de grosses évolutions, et puis l'utilisation autour de ces trucs a beaucoup évolué.
Ah, c'est ça, c'est gigantesque là. On en est qu'au tout début. Enfin, là, c'est vrai que moi, là, en ce moment, je suis obligé de la tête dedans parce que, enfin, c'est le cas de le dire. j'ai le Oculus Rift et le Vive au boulot. Je suis allé, par exemple, il y a un mois de cela, je suis allé à un salon qui s'appelle Laval Virtual. Je sais pas si tu connais, qui est un salon, un petit salon à Laval, dans la Mayenne, donc la ville vraiment toute petite, qui est spécialisée dans la réalité virtuelle. Et il y avait des expériences justement d'interaction sociale entre deux sujets en VR, et c'était hyper impressionnant, quoi. Mais par contre, c'est aujourd'hui des installations qui nécessitent beaucoup de place, beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, etc. Donc on n'en est pas encore au stade de la miniaturisation de tout ça. Et lui, effectivement, tout à fait, c'est dans 10 ans, on imagine très bien si on va à la même évolution que le smartphone. Encore faut-il que le marché suive, parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui, pour le moment, le public, il est pas vraiment là. Hein. Mais c'est sûr que les ambitions sociales, même si on les voit pas du tout aujourd'hui, elles sont clairement là. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans la partie IA, c'est notamment l'article que tu as mis dans le conducteur, c'est le tag des vidéos, le tag des personnes sur les vidéos. Ça, je trouve ça à la fois hyper impressionnant et même un peu flippant. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas avoir un chat vidéo avec quelqu'un, et que quelqu'un d'autre va rentrer dans la pièce, l'IA pourra taguer cette personne, pourra reconnaître cette personne en disant ça c'est machin, c'est Madame Michu. Et plus tard tu pourras dire à ton IA, est-ce que tu peux me redire le moment où il y a Madame Michu qui est rentrée dans la pièce, et il va te ressortir ce moment-là, quoi. Et ça, c'est une façon, je trouve, d'archiver des vidéos qui est géniale, quoi. Enfin, c'est hyper impressionnant, quoi. C'est-à-dire que tu pourras garder des traces de tout, quoi. Alors, c'est très flippant, mais je trouve ça assez génial.
Ouais, c'est effectivement, et là, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur les aspects flippants de tout ça, parce que c'est sûr que, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, c'est encore une étape supplémentaire dans la digitalisation du monde. Et quand je dis digitalisation, c'est au même titre que la musique, qui avait un support physique, a été transformé en quelque chose d'immatériel parce que ça a été digitalisé, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer une partie du monde physique dans un monde virtuel qui est beaucoup plus analysable, manipulable. Il y a de plus en plus de tous ces éléments qui rentrent dans ce monde, je veux pas dire virtuel, mais vraiment dans ce monde digital, dans ce monde immatériel. Et ça veut dire qu'on peut le manipuler, l'analyser, l'archiver, le retrouver pour le meilleur et pour le pire,
c'est,
finalement.
C'est ça, bah oui, bah, parce que là, ça va, évidemment, ça pose des questions sur la surveillance, sur, on va, enfin, imaginons des caméras dans les rues qui ont ce genre de capacité, c'est terrorisant, quoi. Mais bon, à la fois, c'est fascinant. Enfin, c'est toujours le même problème, enfin, c'est toujours la même chose avec l'IA, comme tu dis, hein. C'est, d'un côté, c'est très excitant, et d'un autre côté, parfois, ça donne des frissons, quoi.
Bah, justement, il y a, c'est complètement, séparé de F8, mais il y a une utilisation du machine learning qui a été annoncée par Facebook un petit peu après Twitter, qui faisait presque la même chose, mais pas exactement en fait. C'est l'utilisation de la reconnaissance de d'images qui se fait automatiquement sur Facebook pour ajouter un texte alternatif qui décrit cette image aux utilisateurs non ou malvoyants. Donc là, c'est vraiment, on parle de machine learning et de reconnaissance d'images depuis bientôt 2 ans. Là, il y en a une application concrète sur des images fixes, hein, mais tout de même, c'est-à-dire que la machine, enfin l'intelligence artificielle regarde l'image et va décrire, par exemple, là, je pense qu'il y a un chat devant un paysage de forêt. Tu vois, c'est le texte qui va être écrit pour que les gens puissent
avoir une description.
C'est ça. Donc ouais, c'est assez fascinant
et. Ah, c'est fascinant, ouais, c'est sûr. Ouais. Et juste pour la partie sur la connectivité au web, c'est vrai que bah il y a deux sociétés qui le font. Je crois que c'est Google aussi qui veulent faire des je dise pas de bêtises. Ils avaient pas un système avec des sortes de
des ballons,
des ballons.
Oui, tout à fait.
Et
c'est Project Loon.
Ça pour moi c'est une chose qui est vraiment géniale, parce que plus les gens ont accès au web, plus ça permet de développer l'intérêt pour le numérique, pour le savoir, pour plein de choses, et c'est pour moi c'est primordial aujourd'hui que la terre entière ait accès au web, pour ça, quoi.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même. Alors, on peut ensuite parler de des intentions de Facebook et de est-ce que c'est gentil ou pas gentil, ou est-ce que c'est un but horriblement commercial
qui,
et bah.
Voilà, c'est une société qui doit gagner de l'argent, donc derrière il y aura toujours quelque chose, hein, c'est sûr.
Mais je crois qu'il y a. Il y a bien sûr l'idée de d'amener 4 milliards de personnes en plus à utiliser leurs produits, évidemment. Je pense qu'il y a aussi les deux ne sont pas incompatibles. C'est un petit peu comme on parlait quand on parle de Project Loon pour Google, l'orientation verte d'Apple. Mais au-delà de ça, je crois que ce genre de d'intention doit être examiné à l'aune des bénéfices que ces évolutions apportent pour le monde, parce que le web est une infrastructure qui est aussi importante que l'électricité, l'eau courante, toutes ces choses-là. Et ça permet de développer l'économie et donc les standards de vie d'un pays de manière incroyable. Donc je pense que oui, dans ce genre de cas, il faut pas l'analyser uniquement avec cette vision un petit peu cynique qu'on peut voir ici et là.
Oui, parce que oui, bien sûr, parce que de toute façon Facebook comme Google ou d'autres sociétés ont la force de frappe, ont les moyens de développer ce genre de choses. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui c'est pas une fondation, enfin c'est beaucoup plus compliqué que pour une fondation basée sur l'open source ou un truc complètement non lucratif qui malheureusement aura le pouvoir de développer ça, quoi. Ils peuvent aider, mais c'est sûr que les initiatives viennent forcément de ces grosses sociétés parce qu'elles ont les moyens.
Ça vient, oui, aussi de ces grosses sociétés. Aussi. Je crois qu'il y a des endroits où les intérêts se croisent et
oui, voilà.
Il n'est pas.
Exactement, oui.
Ouais, c'est un petit peu.
Et puis, médiatiquement parlant, forcément, ça, c'est aussi là qu'on voit, parce que voilà, Facebook fait une conférence, ça a beaucoup plus de résonance médiatique qu'une petite association qui est beaucoup moins connue, quoi.
C'est certain.
Par exemple.
Ouais. Bon, bah écoutez, voilà, c'était à peu près tout pour cette conférence somme toute très intéressante de Facebook et de Zuckerberg. Si vous en voulez plus, elle était disponible en live streaming sur le web. Elle est relativement courte, il a fait lui 45 minutes seulement. Après il y a eu d'autres détails par d'autres personnes, mais vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si vous en voulez plus. C'est tout donc pour notre info à retenir. Il y en avait qu'une grosse aujourd'hui. On va passer à notre partie news et rumeurs avec plusieurs petites histoires qui m'ont interpellé sur de la recherche et de la recherche informatique. Et c'est le genre de truc que j'aime, que j'adore, parce que c'est le genre de truc dont on ne se rend pas compte. Et j'aimerais, enfin, j'aime dans cette émission essayer de rendre intéressant ces sujets qui, parfois, pour certains, pourraient sembler assez un peu trop, peut-être pas compliqué, mais un petit peu trop opaque. Et en l'occurrence, il y a des chercheurs qui ont fait une étude sur les liens qui nous permettent de partager des fichiers qu'on a stockés dans le cloud par des services comme ceux de OneDrive de Microsoft ou des services de Google comme Google Maps. Aujourd'hui, alors ils les dévoilent. Aujourd'hui, les utilisations ne sont, enfin cette utilisation n'est plus possible. Mais la manière dont ça fonctionnait, c'est que vous savez, quand vous voulez partager ou quand vous vouliez partager un fichier stocké sur OneDrive, Microsoft vous fournissait une URL courte, c'est-à-dire qu'il y avait un bit.ly, bit.ly/, et avec, allez, 8 caractères derrière, de manière à ce qu'on puisse la partager assez facilement. Et là, on se dit, les caractères sont tellement aléatoires, a priori, personne va deviner que c'est cette adresse qui va nous amener à ce fichier. En fait, le problème, c'est que l'adresse était tellement courte que des chercheurs ont essayé de simplement rentrer dans leur navigateur, de manière automatique, mais d'essayer toutes les adresses possibles, même avec tous les codes ASCII possibles, ça fait des milliards de possibilités, mais c'est suffisamment court pour qu'un ordinateur puisse essayer toutes ces adresses et voir ce qu'il y a derrière. Du coup, comme le pire en fait, c'est qu'il y avait certains fichiers qui étaient en lecture seule, c'est-à-dire que quand vous choisissez de partager un fichier pour l'envoyer à un ami, il vous donne cette adresse et n'importe quelle personne qui a cette adresse peut accéder au fichier. On peut les faire en lecture seule, mais on peut aussi partager un répertoire que d'autres personnes peuvent modifier. Et donc, si en faisant cette recherche d'URL qui est pas au hasard, en fait, parce que c'est systématique, vous allez toutes les essayer, ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 7% des URL qui étaient utilisées. Pardon, pas 7%, beaucoup moins que ça, mais ils ont essayé 71 millions et il y en avait 24 000 qui étaient utilisées, avec des liens vers des fichiers et des dossiers. Et certains avaient la possibilité de modifier le dossier. Et comme ces dossiers sont synchronisés souvent sur votre ordinateur, le truc le plus vicieux, c'est que une personne qui aurait découvert cette adresse aurait pu mettre dans le répertoire qui est modifiable un malware, un programme malveillant qui va venir attaquer votre ordinateur. Et du coup, votre ordinateur qui est synchronisé, il synchronise le tout, donc il télécharge ce fichier et le fichier risque de d'utiliser les failles de votre ordinateur pour faire des choses très très méchantes dessus, bien sûr. Il y avait le même type d'histoire avec les Google Maps. Finalement, Google et Microsoft ont annulé cette fonctionnalité. Ils ont rallongé les URL courtes pour que ça devienne beaucoup trop long de les découvrir. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Il suffit d'aller à quoi, 12 ou 13 caractères pour que ça devienne impossible, puisque c'est exponentiel. À chaque fois qu'on rajoute un caractère, ça devient impossible, un peu plus impossible de les trouver. Donc, et en plus, ils ont mis en place des systèmes pour bloquer les IP qui allaient chercher toutes les URL de manière systématique. Mais ça, pour moi, la raison pour laquelle c'est intéressant ce truc, c'est que ça nous donne vraiment une idée de à quel point la recherche en sécurité informatique, ça peut venir des endroits les plus inattendus. C'est pas que on va chercher une faille dans un système. C'est pas qu'il y a une faute de programmation et que les programmeurs ont oublié que si on rajoutait un exe à la fin du truc, eh ben ça pouvait lancer un fichier. Ça peut venir de vraiment n'importe où et c'est un monde hyper complexe et intéressant, quoi.
Donc, et surtout, ça peut venir d'une chose extrêmement simple. Enfin, je veux dire, quand tu penses que cette faille de sécurité venait de là, qu'il y avait juste, c'était juste un le bon URL à trouver, qu'il n'y avait aucune sécurité derrière, c'est quand même assez dingue, quoi. Et c'est vrai que du coup, ça pose la question de la sécurité du cloud, parce qu'aujourd'hui, énormément de gens, moi le premier, stockent à 90% ces fichiers, que ce soit sur Google Drive ou sur OneDrive. Moi, j'ai un dossier OneDrive qui commence à être gigantesque. Et tu te dis, voilà, enfin, c'est vrai que finalement, ça tient à pas grand chose, quoi. Après, heureusement qu'il y a ce genre d'études qui permettent aussi aux sociétés de réagir et de renforcer leur sécurité, quoi.
Bah, c'est exactement ça. C'est pour ça aussi qu'il est si important d'avoir des chercheurs informatiques qui peuvent explorer tous les codes et toutes ces failles pour pouvoir les trouver et qu'on puisse les corriger. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y en a d'autres qui sont pas des gentils chercheurs, voilà, qui vont les trouver et qui vont les exploiter pour d'autres de tout autre raison.
C'est ça qui est un peu flippant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ces gens-là sont là pour œuvrer pour le bien, tu vois ce que je veux dire. Mais derrière, combien de hackers veulent juste récupérer tes données ou tes numéros de carte bleue ou j'en sais rien pour les revendre. Et bon, voilà.
Ouais.
Pas rassurant non plus.
Et en l'occurrence, rendons justice à ceux qui la méritent. C'est Cornell Tech qui a fait cette découverte, qui a fait cette démonstration.
Bien joué.
Une autre recherche que moi j'ai trouvée absolument fascinante aussi, c'était cette histoire selon laquelle, en fonction de la plateforme que vous utilisez, les emojis en fait sont un tout petit peu différents. C'est-à-dire que les emojis sont décrits et il y a un standard qui est décrit par je sais plus de quel groupe il s'agit, mais c'est un groupe de régulation du net qui donc ils disent on va créer tel et tel emoji, tel emoji ça va être un type qui sourit, enfin un smiley qui sourit, tel emoji ça va être un smiley qui pleure, tel emoji ça va être une grosse merde qui est voilà un gros caca machin. Et ensuite chaque constructeur, chaque développeur va implémenter tout ça comme il le veut. C'est-à-dire que les emojis d'Apple, les emojis de Google, les emojis de Microsoft, etc., sont pas exactement les mêmes. Chacun interprète la chose. Et c'est marrant parce que, en fait, quand on envoie un message avec des emojis d'une plateforme à une autre, eh ben, on va voir s'afficher les différents emojis. Et il y a des chercheurs qui ont trouvé que, en fonction de la plateforme sur laquelle on était, la personne qui avait envoyé pouvait vouloir dire une certaine chose avec cet emoji qui ressemblait à la chose qu'il voulait dire, mais la personne qui va recevoir le message va voir un emoji différent parce qu'il est sur une autre plateforme qui est la même description, mais qui a l'air suffisamment différent pour qu'on puisse l'interpréter de manière différente. Et là encore, c'est un truc où tu te dis, mais effectivement, on n'y a peut-être pas pensé, mais ça peut mener à des... Mmh. Bon, alors là, c'est pas de la recherche informatique hyper dangereuse, mais par contre, voilà, exactement. Déjà que quand on écrit, on a tendance à s'engueuler plus par mail qu'en réalité.
Mais ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'y pense souvent. Des fois, j'envoie des smileys ou des emojis un peu bizarres de mon téléphone à un pote ou quelqu'un qui est sur un iPhone, par exemple. Alors, moi, je suis sur Android. Tu te dis, mais est-ce qu'il va recevoir le même truc? Et là, c'est vrai que je pense qu'il y aura besoin d'avoir une sorte de véritable uniformisation de l'emoji au niveau mondial, tu vois. Alors, il faudrait créer une sorte de groupe qui s'occuperait de ça.
Le concile bizarre, de l'emoji, ouais.
Le concile de l'emoji, qui validerait chaque emoji, chaque nouvel emoji. Ouais. Une sorte d'académie, tu vois, des académiciens, quoi. Et c'est drôle. Et puis, bah, après, moi, par exemple, récemment, j'ai découvert la puissance des emojis de Messenger sur Facebook. Ils en ont ajouté des tonnes. Et en plus, ce qui est génial, c'est que tu peux récupérer des emojis d'ailleurs et les envoyer à ton pote qui va lui-même les ajouter. Et du coup, tu peux te faire une collection de smileys complètement débiles. C'est très drôle. Et en plus, sur mobile, plus tu laisses appuyer sur l'emoji, plus il va être gros. Donc, tu peux envoyer des emojis de taille différente. Enfin, je trouve qu'il y a une sorte de puissance de l'emoji, notamment sur Messenger, qui est assez génial. Mais du coup, évidemment, ça nécessite, ça marche que sur une seule plateforme et c'est toujours le même problème.
Écoute, je ne crois pas avoir essayé ça, donc je vais m'empresser d'envoyer un message.
Voilà. Et tu laisses Jika appuyer. Par exemple, tu peux envoyer un gros caca en laissant appuyer sur le petit smiley caca pour envoyer. voilà. Plus tu laisses appuyer, plus l'emoji est gros.
Je crois qu'on n'est pas amis sur Facebook. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tu crois?
Ben bah, écoute, je sais pas. Bon, bah, vite, devenons amis pour que je puisse t'envoyer des gros caca.
Je t'enverrai des emojis caca.
Voilà, c'est ça. Alors là, c'est plus du concret. C'est Litro. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Litro, qui était cette société qui faisait des appareils photo, avec profondeur de champ infinie ou sans profondeur de champ, c'est-à-dire que vous pouviez choisir l'endroit où c'était net après avoir pris la photo. Il prenait toutes les profondeurs de champ possibles. La caméra elle-même, l'appareil photo n'a pas hyper bien marché, donc ils se sont réorientés. Ils se sont réorientés vers une vraie caméra de cinéma, pour le coup, qui a une résolution de 400K et qui capture 300 images par seconde. Mais c'est pas le plus intéressant. En fait, le plus intéressant, c'est que cette caméra a 755 mégapixels, c'est une caméra light field, champ lumineux, champ de lumière, qui en fait, pour chaque image capturée, pour les 300 images secondes au maximum, hein, chaque image capturée, il connaît la distance et donc la profondeur de chaque objet. C'est-à-dire que la caméra en temps réel fait une modélisation, presque une modélisation en 3D de la scène qu'elle est en train de capturer, et vous permet de savoir où est placé en profondeur chaque élément. Donc ça fait vraiment, ça donne la possibilité de filmer en fait en 3D une scène sur une image en 2D. Donc ça offre des possibilités incroyables. La plus intéressante, enfin la plus immédiate, je dirais, c'est qu'on n'a plus besoin d'écran vert derrière. Et on sait que les productions, on parle de production professionnelle, hein, bien sûr. Là, il y a la possibilité de louer cette caméra. Ça commence à $125,000, donc c'est pas pour tout le monde, mais ça donne la possibilité de supprimer l'utilisation des écrans verts. Et on sait qu'il y a beaucoup de séries télé qui sont filmées dans différents endroits avec des immenses écrans verts. C'est assez surprenant de voir à quel point c'est commun ce type de travail qui est fait sur les productions qui sont hebdomadaires ou mensuelles, quoi. C'est vraiment pas réservé aux films. Et même pour les films, ça permet de ne pas avoir besoin d'avoir des écrans verts, parce que quand vous avez vos données de ce que vous savez filmer qui est résultant, eh bien vous allez pouvoir supprimer facilement ce qui est derrière votre sujet ou à telle distance de votre caméra, parce que vous savez où est chaque truc grâce à cette technologie qui analyse les champs lumineux, le light field, et qui a toutes ces données. C'est la première étape. Il peut y avoir énormément de choses. Vous pouvez remplacer très facilement des objets dans la scène, puisque vous savez où ils sont, vous pouvez les supprimer et retravailler le fond très facilement. Enfin, c'est une technologie qui rend pas des choses impossibles possibles, mais qui les rend beaucoup tellement plus faciles. Et c'est marrant de voir comment Litro a pivoté, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est formidable. Et c'est vrai qu'il serait temps que le fond vert, ça fait des dizaines d'années que c'est quand même une techno qui est ultra vieillissante. Si ça peut remplacer et surtout ouvrir toutes ces possibilités, c'est fantastique. Mais moi après c'est un sujet auquel je m'intéresse pas assez, mais il y a vraiment des technologies sur les caméras aujourd'hui qui sont vraiment dingues, quoi. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais il y a Facebook qui a annoncé une caméra 360 degrés avec 17 lentilles qui permet de filmer en VR, en 3D, qui a l'air assez génial aussi, hein, un projet open source.
Ouais, c'est ça, c'est un projet que ça fait partie de leur idée que n'importe qui peut intégrer du live streaming.
Voilà. Sauf que la caméra coûte $30,000, mais
voilà, c'est pour des productions pro aussi.
Oui, oui.
Mais effectivement, et puis c'est en open source, ils veulent que tout le monde puisse faire ce genre de truc. C'est pas les premiers à faire ça, mais là c'est des spécifications pour eux.
Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore autre chose, mais t'as une miniaturisation de ce genre de produit et le côté abordable. Aujourd'hui, t'achètes 4-5 GoPro, tu peux te faire une caméra qui filme dans tous les sens, qui filme entre définitions. Enfin, moi, je trouve ça fascinant la façon dont cette technologie a évolué à travers les en quelques années, quoi. Tu peux filmer en 4K avec un smartphone aujourd'hui, tu vois, ça paraît normal, mais t'imagines il y a 10 ans, je revois mon père avec son caméscope qui fait 20 kilos et qui filmait en, je sais même pas quelle définition c'était, quoi, tu vois. Enfin, ouais, c'est dingue, ouais.
Un autre truc que tu vas trouver complètement dingue, c'est un ordinateur qui a créé un nouveau Rembrandt. C'est Jean-Noël qui nous a partagé ce sujet sur, je crois que c'était sur le Reddit. Jean-Noël, donc, qui nous a partagé ce sujet, c'est une intelligence artificielle qui a été designée pour analyser autant de tableaux de Rembrandt qu'il pouvait et qui en a intelligemment retiré toutes les caractéristiques communes et qui a recréé un tableau jusqu'aux éléments, aux reliefs de la peinture en fait, qui restent après qu'on ait peint dessus. C'est pas juste un truc plat, mais qui a recréé entièrement un entre guillemets nouveau Rembrandt. Alors évidemment, on connaît les Rembrandt, donc on sait que c'est pas un vrai, mais c'est assez saisissant de voir la manière dont c'est fait. Et puis évidemment que c'est pas un truc qui est, y a pas de prétention, tu vois, c'est juste de la recherche. Mais là encore, c'est hyper intéressant de voir où cette intelligence artificielle, ce machine learning, est en train de nous mener. Parce que moi, je suis pas un expert de Rembrandt ni de la peinture en général, mais bon, ça a l'air effectivement d'être dans le même style et c'est sorti de nulle part, quoi. Ça a vraiment été créé alors que ça n'existait pas.
Ouais, c'est fascinant. Je suis en train de regarder aussi la vidéo là pendant que tu parles là, et c'est saisissant. En plus, moi, c'est con, mais j'ai visité à Amsterdam.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Un musée il y a pas longtemps, justement, avec beaucoup de Rembrandt, et là du coup ça, j'ai l'impression de retourner dans ce musée, quoi. C'est magnifique. Après, évidemment, jusqu'où on pourra appliquer ces technologies, est-ce qu'on pourra avoir un jour un nouveau Lovecraft, un nouveau Zola pour la littérature? Je pense que c'est très différent, mais effectivement pour de l'art, je vais pas dire abstrait, tu vois, mais voilà, où il y a pas de recherche narrative, c'est super, quoi.
Ouais, c'est, et puis je crois qu'il est facile de rester bloqué sur cette idée que est-ce que c'est moins bien ou mieux que l'artiste original, est-ce qu'il peut réussir à capturer,
fou, ça, tu vois.
Voilà, c'est ça, ah, exactement, c'est pas ça qu'on est en train
défi,
de
quoi.
C'est ça. Ouais non, exactement, c'est juste
après,
le défi, exactement.
Effectivement, quelles seront les applications concrètes de ce genre de choses? Peut-être on peut imaginer pour des reproductions peut-être d'œuvres, où un ordinateur pourra reproduire une œuvre de manière beaucoup plus facile et rapide et fidèle qu'un humain, hein, par exemple.
Par exemple, oui. Là, j'imagine qu'on est déjà à ce stade.
Oui, j'imagine. Oui, d'ailleurs, on se trouve, toutes les reproductions qu'on achète à Montmartre sont faites par des ordinateurs, on ne sait pas. Hein.
C'est possible, ouais. Bon, revenons vers quelque chose d'un petit peu plus concret. Là, on est parti dans les affres, ou plutôt les cieux de la recherche et de la théorie presque. Revenons à quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, avec des téléphones, des liseuses, des montres, des smartwatches, mais surtout des rumeurs. Enfin, pas que, puisque déjà il y a le nouveau Kindle qui a été annoncé par Amazon, qui est disponible là dans très peu de temps, hein, dans une ou deux semaines. C'est le Kindle Oasis, qui est hyper fin, qui a un design main droite ou main gauche, qui est vraiment orienté, qui a les boutons sur le côté, qui a 20 mois d'autonomie de batterie. 20 mois, rendez-vous compte. Bon, ça c'est en veille, hein, donc quand même. Et il est encore plus blanc, encore plus clair que le Kindle Paperwhite. Par contre, il coûte quand même $300. On imagine que ça deviendra 300 € à peu près en France. Ça devient pas un peu cher pour un truc qui fait que liseuse?
Bah là, oui, surtout que moi, je serais curieux de connaître aujourd'hui l'état du marché des liseuses. Il y a toujours un marché, mais voilà, c'est genre de produit, tu le renouvelles pas tous les ans comme un smartphone. Là, on est quand même pas loin, même plus cher qu'une tablette. Enfin, voilà, si tu prends le prix d'une tablette Android. Bon, c'est vraiment pour les esthètes de la liseuse et les gens qui passent des heures et des heures à lire. Après, moi j'ai une liseuse chez moi, mais j'ai la même depuis 3-4 ans et j'ai aucune envie d'en changer, quoi. Je m'en sers régulièrement, mais voilà, j'ai pas besoin d'acheter, surtout pas mettre 300 euros dans une liseuse. Donc bon, je sais bien, mais j'ai l'impression que c'est quand même une sorte de produit un peu de marque et de pour se démarquer et pour dire on l'a fait, quoi. Derrière, est-ce que les ventes vont suivre? Peut-être que je dis des bêtises, ça se trouve, ça se vend encore très bien les Kindle, hein, mais voilà, je pense que c'est plus une sorte de produit de luxe pour mettre en avant la marque, le savoir-faire d'Amazon là-dessus, quoi.
C'est possible, ouais. C'est sûr que les Kindle, dernièrement, c'était plutôt autour de 100-150 euros. Il y a des gens, je suis sûr, qui adorent leur Kindle à tel point que ils veulent avoir le dernier le plus technologiquement avancé, ouais, ouais. Parce que c'est un truc qu'ils utilisent énormément. Mais effectivement, 300 $, ça commence à faire un peu réfléchir, quoi. Mais en même temps, c'est pas du tout le même produit qu'une tablette. Je veux dire, quelqu'un qui utilise beaucoup son Kindle, il va pas forcément se dire, j'ai une tablette, donc je vais pas utiliser le Kindle.
Tu vois, c'est sûr. Ouais, moi, c'est vrai que pour avoir essayé, je lis des fois sur tablette, sur une tablette classique, le confort de lecture sur une liseuse. Moi, c'est une Kobo, hein. C'est quasiment c'est la même chose. Le confort de lecture, il est vraiment excellent, hein, sur une tablette. Ouais. Et puis tout simplement, t'as cette autonomie. Tu peux lire un livre en entier de 500 pages et encore avoir de la batterie. Donc,
Je crois que ça pose la question, en fait. Ouais. Ça pose la question des appareils dédiés, finalement. Est-ce qu'on veut des appareils à tout faire? Est-ce qu'on veut des appareils dédiés? Je crois qu'il y a la place pour les deux, sans doute.
Oui, mais bon, est-ce que, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, est-ce que, mais alors, oui et non. C'est-à-dire que d'un autre côté, je pense que par exemple, au niveau des lecteurs MP3, aujourd'hui, ceux qui vont se vendre, c'est les lecteurs MP3 à haute définition ou d'excellente qualité, qui vont sans doute coûter plus cher, mais qui vont satisfaire les vrais audiophiles. Moi, je sais qu'au boulot, j'ai des collègues qui s'occupent de l'audio, qui testent pas mal de lecteurs MP3 audiophiles. Et je pense qu'il y a un vrai marché pour ça, mais ça reste de la niche, un peu de luxe. Donc forcément, ça fait de l'argent, quoi. Ouais. Donc peut-être que pour la liseuse, ce sera pareil. Un jour, il y aura des liseuses très haut de gamme. Et effectivement, plus personne n'ira acheter des liseuses à 50 euros ou à 70 euros. Parce que autant lire à ce moment-là, peut-être lire sur une tablette, c'est pareil, quoi.
Peut-être. Du côté de Microsoft, on a des nouvelles du téléphone. Il y en a quelques-uns dans le fond qui vont sauter de joie. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Le Microsoft Surface Phone arriverait peut-être en 2017. Donc ouais. Voilà, c'est pas pour tout de suite non plus. Il y aurait trois modèles pour trois niveaux de prix et marchés différents. Donc il semblerait qu'il soit dans la même idée qu'avec la Surface, la tablette, essayer de faire un produit qui montre leur savoir-faire et qui montre la direction dans laquelle aller peut-être à d'autres constructeurs. Mais bon, voilà, c'est une rumeur, hein, on sait pas, mais peut-être l'arrivée d'un Surface.
C'est vrai qu'avec Surface, c'est leur positionnement à Microsoft, c'est de créer un produit de référence, qui est souvent d'ailleurs très bon, hein, les Surface Book, Surface Pro, c'est des bons produits. Là, clairement, ils veulent laisser tomber la marque Lumia, d'après ce que j'ai compris aussi, enfin, petit à petit, parce que, mine de rien, ça prend pas, hein. Moi, je suis quand même admiratif de la capacité qu'a Microsoft à continuer à s'acharner sur ce marché.
ils ont quand même payé Nokia assez cher pour la marque Lumia.
Voilà. Mais c'est sans moquer aucune, hein. C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils sortent des Lumia, qu'ils sortent des Windows Phone, qu'ils essayent de faire évoluer ça. Ils n'y arrivent pas beaucoup, faut dire ce qui est, mais ils continuent. Et je pense que effectivement le Surface Phone, ça va devenir une sorte de produit, en espérant que ce soit un téléphone haut de gamme. Mais étant donné que c'est brandé Surface, je vois pas quelque chose qui soit pas haut de gamme, qui va être très haut de gamme, qui se vendra comme il se vendra, mais qui sera une sorte de produit de plus ajouté au portefeuille de Microsoft dans la catégorie des produits luxueux, quoi. Parce que quand tu vois le prix des Surface Book ou même de la Surface Pro, c'est quand même très cher, quoi.
Ouais, c'est sûr. En même temps, là, selon les rumeurs, il y aurait trois modèles pour différents marchés. Donc, peut-être qu'il y aurait quand même un modèle un petit peu plus abordable.
Ouais, mais ils feront peut-être comme Surface, où t'as la Surface 3 pour les étudiants avec un Core M, la Surface Pro pour milieu de gamme, et le Surface Book pour ceux qui veulent lâcher 4000 euros dans un portable, quoi, dans un PC portable.
Ouais, ouais. Du côté de chez Apple, on a des rumeurs, hein, tout ça c'est que des rumeurs, mais des rumeurs sur la possible arrivée d'une nouvelle Apple Watch affinée qui serait présentée en juin. Certains l'attendaient en mars, mais elle n'est pas arrivée. Moi, je suis pas certain, mais bon, visiblement, les rumeurs font état d'une arrivée en juin. Moi, je me dis qu'il ferait peut-être un cycle sur 2 ans, mais en même temps, les prévisions de Min-Chu Ko, qui est l'analyste auquel les gens font confiance sur Apple, disent que d'une année sur l'autre, les ventes de l'Apple Watch chuteraient de 25%, ce qui est pas super pour le nouveau super gros produit. Et donc, peut-être qu'il pourrait le renouveler. Donc,
la grande question, c'est, Patrick, comment va ton Apple Watch? Est-ce que son tiroir lui plaît toujours?
Eh ben, écoute, figure-toi que depuis que je suis au Japon, donc depuis 2 semaines, je la mets presque tous les jours pour un truc tout bête, c'est pour une fonction uniquement, c'est que je me suis mis les heures dans différents pays, différentes villes. J'ai l'heure, bien sûr, au Japon. Et puis, tout en bas, j'ai Los Angeles, New York et Paris. Et avec le, donc déjà, ça me dit quelle heure il est dans ces différents pays du monde avec lesquels je travaille tous les jours, hein, même depuis le Japon. Et puis, j'ai la petite fonction time travel en faisant rouler la molette, qui me fait avancer ou reculer dans le temps, enfin, surtout avancer pour voir quelle heure il sera, dans ces différents pays sans avoir à réfléchir, tu vois, à faire des additions. C'est dur.
Ouais,
Et ben, je la porte tous les jours. Bon, c'est spécifiquement pour ça. Je sais pas si je la porterai encore. Quand je reviens en Europe, mais pour le moment là, elle me sert spécifiquement pour ça. Donc voilà.
Ouais, c'est sûr. Après,
tu t'attendais à ce que je m'en moque encore.
Je suis déçu. Je m'attendais à pouvoir troller allègrement l'Apple Watch, mais non. Mais par contre, c'est vrai que, enfin, on a vraiment l'impression que le marché des montres est en train de crever, quoi. Enfin, gentiment, quoi. Je sais pas. J'en prends juste comme exemple au Mobile World Congress cette année. Bon, ça date il y a quelque temps. J'y étais avec mes collègues. On y était. Et le constat qu'on a tous fait, c'est où sont les montres? Il y a plus de montres. Il y a nulle part. Alors qu'il y a encore 1 an, 2 ans, il y en avait partout. Chaque constructeur avait sa montre. Là, il y avait nulle part, c'était fini, quoi. Donc tu sens que là le marché est vraiment, ils sont passés à autre chose, des constructeurs, quoi.
Je crois que effectivement l'Apple Watch, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit dans cette émission depuis un moment, c'est pas du tout le succès qu'aurait pu espérer Apple. Ils ont pas réussi à créer une utilité à ce produit auquel beaucoup de gens croyaient, mais beaucoup d'autres gens ne croyaient pas trop. Et finalement, ceux qui étaient déjà intéressés par une montre, une smartwatch, eh ben, ils ont en partie été séduits par l'Apple Watch, mais ils n'ont pas réussi à faire grossir ce marché. Et effectivement, avoir vendu 10 millions de montres en 2015 et avoir une perspective à 5 ou entre 5 et 10 millions l'année prochaine, peut-être même un petit peu plus, ça, c'est évidemment énorme. Ça fait beaucoup, 10 millions de montres à entre 200-400 dollars et beaucoup plus. Personne cracherait sur ce marché, mais c'est quand même pas le genre de nouveaux produits, de lancement de nouveaux produits auxquels Apple, dont Apple rêverait. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'ait pas annoncé de chiffres officiels pour les ventes de l'Apple Watch, c'est ce qu'on attend toujours. Peut-être qu'ils arriveront enfin en juin à la WWDC, mais ça trompe pas. Ça veut dire que
c'est un signe, hein, parce qu'Apple, c'est les promesses gargarisées dès qu'ils ont des ventes astronomiques. S'ils communiquent pas, ça veut tout dire. Hein.
Exactement. Bon, la suite, on va passer un petit peu plus rapidement. L'Union européenne serait a priori prête à lancer une condamnation. Contre Google sur Android et son abus de position dominante, puisqu'en fait, ils permettent aux constructeurs d'utiliser Android, mais ils les obligent à intégrer des applications Google spécifiques. C'est pas tout à fait entièrement vrai, parce que Android est quand même open source et on peut forquer entre guillemets Android et donc en développer une version à soi, mais si on veut utiliser la version Android, oui, effectivement, on est obligé d'installer certains éléments. On se souvient tous du procès contre Microsoft à l'époque, ça fait bien longtemps, hein, mais à l'époque
le procès antitrust, oui, avec Internet Explorer.
Et exactement, il y avait Internet Explorer, il y avait Windows Media Player. Donc, bah, c'est un petit peu la même chose du côté de Google. Google répond que non, non, pas du tout. Bon, on verra si l'Union européenne effectivement lance la procédure ou pas. Il semblerait, certains indices semblent indiquer que ça va arriver dans les jours à venir. Là, donc, voilà. On a le Guardian, le fameux quotidien anglais, qui a analysé 70 millions de commentaires depuis 2006. Et les résultats de leur analyse ont été que les auteurs qui ont reçu le plus de harcèlement sont 8 femmes et 2 hommes noirs. Et c'est les 10 auteurs qui ont eu le plus de commentaires négatifs, toxiques, de harcèlement, etc. Je voulais juste l'évoquer parce que je crois qu'il y a une tendance souvent sur le net à se dire « Ah bah oui, mais de toute façon, c'est Internet, tout le monde est toxique, tout le monde s'en prend plein la gueule, et donc, voilà, tout le monde est à la même enseigne. » Mais la plupart des recherches et de ce qu'on constate vraiment quand on étudie la chose de manière un peu sérieuse, c'est que, encore aujourd'hui, il y a un élément de racisme, bien sûr, et un élément de misogynie là-dedans. On en a beaucoup parlé dans le jeu vidéo ces dernières années, mais c'est vraiment pas quelque chose qui sort de nulle part, quoi. Il y a quand on étudie la chose, on se rend compte que c'est vraiment le cas. Et là encore, malheureusement, sur le Guardian, il y a cet élément de preuve supplémentaire que les hommes noirs d'une part et puis les femmes en général sont les plus harcelés, les plus toxicifiés sur le net. Et c'est déplorable, mais je voulais le mentionner.
Ça, de toute façon, c'est juste le gros problème d'aujourd'hui de tous les commentaires sur Internet. C'est devenu une espèce de jungle où justement ceux qu'on entend le plus et qu'on lit le plus sont toutes ces personnes, voilà, qui vont avoir des messages de haine ou de racisme ou de sexisme, etc. Et enfin, c'est affolant. Enfin, le nombre de gens qui ont fermé leurs commentaires sur leur site ou leur blog ou leur chaîne YouTube. Et ça, c'est un vrai souci, hein. Je veux dire, tu vas sur des sites d'info, que ce soit Le Figaro, Le Monde ou quoi que ce soit, dès qu'il y a un article un peu touchy sur la politique, etc. Alors là, c'est catastrophique, quoi. Mais bon, en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu vois, est-ce qu'on censure ces gens? Est-ce qu'on les empêche de s'exprimer? Est-ce que c'est très compliqué, quoi? C'est très compliqué à gérer.
Ouais. Ouais, c'est sûr. Il y a pas vraiment de, disons que s'il y avait une solution simple ou facile, on l'aurait, oui, mais c'est certain. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant que cette étude du Guardian montre encore une fois que oui, il y a des trolls et des commentaires toxiques partout, mais voilà, il y en a un petit peu plus envers certaines catégories de personnes.
Par hasard.
Guico sur le Reddit nous a signalé une histoire que j'avais notée aussi sur le navigateur Brave. Est-ce que tu sais ce que c'est que ce navigateur Brave, toi ?
Alors, je pourrais faire genre que oui, mais en fait, non, je ne sais absolument pas ce que c'est.
Mais en fait, c'est un navigateur qui a été lancé avec l'idée de trouver une solution au problème de la pub. Et ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ont 3 modes d'utilisation avec le navigateur et chacun a à voir avec la question de la publicité sur les sites web. L'un des modes, c'est que, alors on a le choix, hein, on peut déterminer ce qu'on fait. Il y a des modes où on va bloquer les pubs, il y a des modes où on va demander à Brave d'agir en fait en tant que agence publicitaire qui va remplacer les pubs qui sont sur les pages internet. Donc, vous allez sur, je sais pas, tu parlais du Figaro ou du Monde, on va sur le Figaro. Les pubs servies par le Figaro ou le Monde sont supprimées, remplacées par des pubs approuvées par le navigateur Brave et qui sont moins invasives, moins lourdes, qui sont approuvées, donc elles sont de bonne qualité. Et ils vont garder, eux, 5% des revenus. Ils vont donner 15% des revenus au navigateur, ça veut dire à la personne, à l'utilisateur, à vous qui êtes en train d'utiliser ce navigateur, et je sais plus combien, le reste, 75% ou 65%, au site que vous êtes en train de regarder. Donc, l'idée, c'est que oui, ils vont enlever le revenu du site, mais ils vont leur redonner une partie des revenus qu'ils ont créés, avec l'idée que les gens qui sont très nombreux et qui suppriment des, enfin, qui utilisent des bloqueurs de publicité, pourraient se dire, au moins une partie d'entre eux pourraient se dire, bah, je suis pas contre l'idée de donner une partie, enfin, de regarder des pubs, surtout si ça me rapporte un petit peu d'argent, et si les pubs sont sécurisées et de bonne qualité, et du coup, ça convertirait les gens qui utilisaient des bloqueurs de pubs en utilisateurs, entre guillemets, monétisés. Alors évidemment, tu t'en doutes, la réaction des éditeurs de sites web a été hyper positive. Ils se sont dit, les utilisateurs y gagnent, le navigateur y gagne, tout le monde y gagne, évidemment, n'est-ce pas ? Mmh. Ouais, non. Pas du tout, bien sûr que non. En même temps, on peut les comprendre. De leur point de vue, si on voit les choses, je dirais moi de manière un petit peu, pas étriquée, mais on est un petit peu rigide, on se dit, ah mais attendez, donc vous enlevez nos pubs et vous nous redonnez, je sais plus combien, 65% de ce qu'on aurait gagné de toute façon. Non mais vous foutez de notre gueule. Et en plus vous voulez qu'on vous dise merci. Bah d'accord. Procès. Oui,
c'est toujours,
voilà.
C'est toujours mieux que les mecs qui utilisent Adblock et qui de toute façon affichent aucune pub. Tu vois.
Et voilà, c'est l'idée. C'est mais les éditeurs n'ont pas du tout vu ça comme ça. Moi je crois qu'il y a quand même ouais. du. On pourrait là encore on pourrait en parler pendant très longtemps.
Oui, ah oui c'est un débat sans fin. Ouais.
Mais je crois qu'il y a une piste de réflexion là-dedans et que il y a quelque chose à explorer et que comme toujours le rejet en bloc de ce type d'idée n'est pas une bonne chose et ça ne peut que desservir les éditeurs au final qui se retranchent dans leur modèle sans vouloir rien changer et sans vouloir rien voir.
Ah, oui. Récemment, il y a eu cette campagne de médias français là qu'on fait des campagnes contre Adblock, qui se sont pris du coup un bad buzz derrière parce que tout le monde leur a dit mais vous avez rien compris si les gens utilisent un bloqueur de pub c'est qu'il y avait une raison. Alors moi je veux dire pour travailler sur le net depuis des années et de vivre enfin voilà je suis complètement enfin voilà le bloqueur de pub je déteste ça mais c'est sûr que enfin d'un autre côté, je supporte plus la pub moi-même. Je supporte plus la pub intrusive. C'est-à-dire que votre contenu s'affichera dans 20 secondes avant d'arriver sur l'article. Ça, c'est fini. Moi, je change de page. Alors. Voilà, sauf que derrière, je soutiens les sites qui mettent des pubs non intrusives et surtout, je soutiens financièrement certains sites qui ont des offres premium, où j'y vais régulièrement, tu peux t'abonner. Et franchement, pour 2 ou 3 euros par mois, ne plus avoir de pub sur un site, c'est juste le bonheur, quoi. C'est sans avoir évidemment à installer un adblock, quoi.
Ouais,
mais bon, c'est un débat hyper compliqué. Enfin, et les médias doivent aussi trouver d'autres moyens de financement, doivent repenser leur modèle de publicité. C'est extrêmement complexe. T'as aussi le native advertising qui aujourd'hui est beaucoup utilisé, ce qui je trouve n'est pas une solution. C'est-à-dire qu'un contenu qui est, quand il est marqué sponsorisé ou natif ou publicitaire, s'il est bien indiqué, moi ça ne dérange pas. Voilà, c'est très compliqué, mais il y a d'autres façons de faire. Il faut trouver des nouvelles façons, quoi.
Et quand tu dis repenser le modèle publicitaire, je crois que justement la réflexion de Brave, qui est peut-être pas la meilleure en l'état, mais cette réflexion est intéressante à étudier plutôt
carrément
que
intéressante. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Il y a des nouvelles de Molotov.tv qui est ce fameux service qui veut réinventer la télé. J'ai toujours rien compris, hein. Moi, j'ai pas compris en quoi la télé était réinventée, si ce n'est que, maintenant, on peut regarder la télé sur Internet. Merci, bienvenue en 2012.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas,
ça
j'ai
fait
pas.
Des années que je fais que ça, quoi, ouais.
Ouais, j'arrive toujours pas à comprendre. Alors, le service a évidemment un buzz énorme parce que c'est créé par Pierre Lescure, etc., etc.
Signé, ouais,
voilà. Je sais pas. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la télé est réinventée avec Molotov.tv, je suis preneur.
Alors, parce que c'est gratuit. Non, j'en sais rien. C'est bizarre, ouais.
Je sais pas.
C'est
vrai qu'on peut regarder en direct. Peut-être
que j'en sais. Bah oui, mais c'est comme n'importe quelle application. Je veux dire, sur ta tablette, t'installes les applications des chaînes et tu peux regarder tout le replay, tout le direct.
Peut-être que là, tout est réuni dans la même appli et puis tu peux aussi faire du replay. Tu vois, tu peux regarder si t'as pas reçu en direct. Tu peux, je sais pas. Non, je.
Là, on est vraiment en mode, c'est même pas on se moque, tu sais, c'est qu'on on comprend pas, quoi. C'est expliquez-nous, quoi.
Tu sais, peut-être qu'on voit ça d'un œil trop technophile. Peut-être que pour nous, c'est tellement évident tout ça que ça nous paraît normal, mais en fait, peut-être que l'idée de ce service, c'est de prendre tout ce qu'on a appris sur le streaming et sur le replay dans des apps indépendantes et sur des sites indépendants, de ramener ça, de rendre ça utilisable, facile à mettre en place pour des gens normaux qui vont juste installer l'app molotov.tv, créer leur compte et puis avoir accès à tout ça d'un coup. Peut-être que c'est pas le Netflix, mais justement le service, le Napster pour la télé, qui va tout réunir sur un seul service et qui va le rendre facilement accessible. Peut-être que c'est ça qui est en fait juste une réorganisation de ce qui existe déjà, mais qui le rend utilisable, quoi.
Oui, c'est sûr. Après, en France, on a quand même la chance d'avoir tout ce qui est offre triple play avec les box. Alors les box, évidemment, c'est que sur de la télé, mais aujourd'hui, les box sont extrêmement intuitives et regroupent les services de replay, Netflix, le direct, t'as tout sur les box. Donc, quelle est la valeur ajoutée par rapport à déjà ce type d'offre alors effectivement, ça marchera sur tablette. Ok, bah effectivement, t'auras pas besoin d'installer 5 applications de chaînes différentes.
Ah, c'est déjà beaucoup, hein.
C'est déjà beaucoup, mais
Je sais pas, moi je trouve que c'est déjà beaucoup, et puis c'est marrant parce qu'en y réfléchissant, je suis un petit peu en train de changer d'idée. En même temps, c'est pas à moi que ça s'adresse, je regarde pas vraiment la télé, mais ce service, il peut ensuite être sur n'importe quelle tablette, sur n'importe quel set-top box, tu vois, sur l'Apple TV, sur les Android TV, sur les Google TV, etc. C'est un service, t'as pas besoin de t'emmerder à avoir tel truc sur telle box qui marche de telle manière, tel service qui est hyper lent et hyper pourri. Tu vois, généralement les set-top box, c'est pas non plus
Ça dépend, c'est quand même de mieux en mieux, mais bon, enfin je sais que nous à la maison, on consomme énormément de chaînes de programmes en replay, on regarde de moins en moins le direct, et c'est vrai que c'est un réflexe à prendre, hein, mais maintenant on est super habitué à utiliser ça et ça marche bien, quoi. Enfin, tu vois, il y a aucun souci. Alors effectivement, on est peut-être un profil technophile jeune, etc., j'en sais rien, mais est-ce que la personne, le retraité, est-ce qu'il va aller avoir le réflexe d'aller sur molotov.tv pour regarder son replay?
Je suis pas
sûr non plus, tu vois,
pourquoi pas. Moi je me dis peut-être pas sur la télé parce qu'on a déjà la set-top box, mais sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le smartphone, peut-être. Je suis passé de
d'accord, on en parlera dans 5 ans quand Molotov sera racheté par Google et que ce sera un géant.
Exactement, pour 12 milliards.
Voilà.
Ouais, moi je suis passé de moins 5 degrés à tiédasse, tu vois, sur Molotov là en 5 minutes. C'est déjà ça. PG nous évoque toujours sur le Reddit du Rendez-vous Tech l'explosion des négociations entre Orange et Bouygues Télécom dans l'épisode précédent. Je disais fièrement ça y est, là ça va arriver dans 2 ou 3 jours selon les rumeurs qu'on avait à l'époque, enfin il y a 15 jours, hein, et on a eu quelques jours plus tard l'annonce que ça marchait pas du tout. Et du coup, maintenant, c'est complètement comme le dit l'article, retour à la case départ. On a les 4 opérateurs, alors que plusieurs acteurs disaient « Ah, c'est totalement malsain, il faut absolument que on passe à 3 parce que sinon la concurrence est trop féroce, etc. etc. » Donc c'est juste à évoquer. Stéphane Richard nous disait que maintenant, malgré tout, c'était la fin des promos parce que ça avait trop duré et que c'était pas du tout possible de continuer à faire avec ce rythme effréné de promos. Ce qui était marrant, c'est que le jour même, il y a eu une super méga promo chez Soch, bien sûr, qui dépend d'Orange, dont Stéphane Richard est le président. Donc maintenant c'est revenu à la situation dans laquelle on était il y a dont on n'est jamais sorti en fait. 4 opérateurs, concurrence féroce. Moi je crois que les consommateurs y gagnent, mais
Bah oui, franchement, c'est ça qui. Enfin, moi, je suis très content hein, d'avoir quand même. T'as quand même le choix dans tes offres hein, entre les forfaits à 2 €, 10 €, 15 €. Après, c'est sûr que ça commence à être le bazar parce que effectivement, il y a les quatre opérateurs, enfin les quatre opérateurs, mais derrière, il y a toutes leurs sous-marques, BNU, Soch, etc. Et c'est pas forcément évident pour pareil pour Monsieur Tout le Monde que ça appartient, que ça dépend de Bouygues ou d'Orange. Donc, on a l'impression d'avoir quand même une offre gigantesque, et sans compter les MVNO. Tu vois, il y a quand même un paquet d'offres et c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Alors l'avantage c'est que les prix aujourd'hui sont hyper cassés, hyper bas. Mais alors ça reste un sacré bazar pour s'y retrouver quoi.
Ouais, moi je crois que c'est assez sain. Hein. Ça évolue bien. Ouais. On n'a pas de. Disons que le seul aspect dont je me dirais c'est un petit peu limitant, c'est les limites en quantité de données par mois. En Finlande, par exemple, on peut, en payant 5 € de plus, ne pas avoir de limite, alors que la limite est à genre 50 gigas par mois. Avec 5 € de plus, on a zéro limite, avec des vitesses incroyables, évidemment. J'ai l'impression qu'en France, c'est le seul, entre guillemets, problème, parce que généralement, on a quand même des limites relativement raisonnables si on passe pas son mois à regarder de la télé en streaming, quoi.
Donc, bon, c'est encore le seul frein effectivement là-dessus, c'est le seul souci. Donc,
mais donc tu vois ce que je veux dire, c'est que étant donné qu'il n'y a pas vraiment, le déploiement est bon, la qualité des réseaux est correcte, ouais, je pense qu'elle est quand même pas mal. Il y a avec l'arrivée de Free, c'était un petit peu limite, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et puis surtout, les autres services qui sont alignés sur les prix ont des bonnes qualités de réseau. Moi, je vois pas en fait ce qu'apporterait une réduction du et puis ils font tous des bénéfices, donc je vois pas ce qu'apporterait une réduction du nombre d'acteurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le marché est vraiment malsain au point qu'on ait besoin d'une réduction du nombre d'acteurs? J'ai pas l'impression. Maintenant, si vous savez un petit peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à venir sur l'article de l'émission. Venez nous dire pourquoi est-ce que on a trop d'acteurs et pourquoi il vaudrait mieux passer à 3 plutôt que 4. J'aurais vraiment curieux d'avoir une réponse érudite sur le sujet. Mais là, comme ça, je vois pas trop. Et je suis sûr que s'il passait à 3, il se mettrait pas tout à coup à nous autoriser des consommations illimitées dans nos forfaits.
Non.
Hein, donc,
clairement pas, non. Clairement ouais. Pas, c'est sûr.
Des vignerons, toujours sur le Reddit, nous relate une décision, enfin un rapport de la CNIL qui a étudié un petit peu le blocage administratif des sites. Vous vous souvenez que ce blocage administratif avait été mis en place pour supprimer l'accès aux sites terroristes et aux sites pédophiles. Eh bien, une fois de plus, on se rend compte que ce type de mesure est, comment dire, bah, au mieux inefficace. C'est-à-dire que les sites qui ont été bloqués, bon, d'une part, point positif, a priori, les organismes de surveillance ont fait leur boulot et il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu de demande, en tout cas sur cette première année, hein, il n'y a pas eu d'abus sur les demandes de blocage. Donc il n'y a pas eu des choses qui n'auraient pas dû être bloquées, qui ont été bloquées ou pour lesquelles il y a eu des demandes. Au moins, première chose positive. Mais de l'autre côté, les sites qui ont été bloqués, d'une part, bah, personne n'y allait. Parce qu'une fois que c'est bloqué, bah ça y est, c'est fini, personne n'y va. Donc c'est même pas qu'ils ont les gens essayaient d'y aller et ils étaient bloqués. Bah les gens n'essayaient plus d'y aller. Et puis l'autre moitié de ce truc, c'est que comme ils le disent, ça sert à rien parce qu'ils sont immédiatement remplacés. L'exemple qu'ils donnent, c'est un site au nom tel que sexygirl4.com va être remplacé par sexygirl5.com et ainsi de suite. Et du coup, il n'y a aucune efficacité. C'est pas que le contenu, tout à coup, n'est plus vraiment accessible. C'est juste qu'il est accessible différemment. Donc, voilà. Et c'est la CNIL qui le dit, hein. C'est pas juste les excités de la quadrature du net ou des fans de tech comme moi. Donc,
oui, c'est voilà. Presque rassurant de voir la CNIL dire ça. Enfin, mais bon, après, ça changera pas grand chose, à mon avis, sur ce genre de méthode, hein, et de loi, quoi. Mais bon.
Bah, je crois que ça change pas forcément grand chose sur les lois qui sont déjà implémentées. Oui. Effectivement, mais par contre, ça peut permettre de donner une vision un petit peu plus claire aux gens qui réfléchissent aux lois à venir. Tu vois, on pourra se référer à cette loi-ci, et la CNIL dit effectivement, bah, c'est quand même une usine à gaz et ça sert pas à grand-chose. Donc, on pourra on a essayé, on voit ce que ça donne, et on pourra pour la suite réfléchir avec un petit peu d'éléments concrets de sur l'efficacité du truc, quoi.
Ouais.
Autre sujet extrêmement important, partagé là encore sur le Reddit du Rendez-vous Tech par alors je vais pas réussir à lire son nom, Gnaluyak, qui nous dit que a priori les podcasts arriveraient sur le Play Store, sur Google Music cette semaine. C'est possible, c'est là encore une rumeur, et il est très possible que ça ne soit que sur le Play Store américain, au moins dans un premier temps. Mais bon, ça veut dire qu'il faut se préparer.
Ce sera aux États-Unis dans un premier temps.
C'est ça.
Du moins aux États-Unis. Après, mais c'est, ouais, c'est une super nouvelle. Enfin, pour bah, nous, enfin pour nous, toi et moi qui produisons des podcasts, c'est quand même super.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc on est en train de, en gros, il faut se préparer quand que ça arrivera en France, à laisser des commentaires, à laisser des étoiles, tout ça.
Ouais, c'est ça. Par contre, moi, du coup, ça me fait un peu peur pour les gens qui font les Pocket Casts, Podcast Addict, ce genre d'applications qui sont super, hein, qui sont bien installées, mais est-ce que ça va pas leur faire une sacrée concurrence si aujourd'hui ton podcast est directement dispo sur ton Android, sur Google Music?
Bah, je crois que il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts sur iOS, sur l'application podcast ou directement sur iTunes.
Oui.
Mais il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent Downcast ou Overcast ou d'autres trucs comme ça.
Bah voilà, c'est ça.
Ou Pocket Cast. Et le truc, c'est que je pense que c'est des bons produits d'appel pour faire découvrir les podcasts aux gens. Et puis il y a des gens à qui ça convient. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent en faire un petit peu plus et qui là vont aller chercher des applications tierces. Et alors je sais pas si le net sera positif sur Android aussi, mais je crois que sur iOS c'est quand même un truc que les gens découvrent par iTunes. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont découvrir les podcasts par le Play Store ou par Google Music et qui vont ensuite s'y intéresser par ailleurs aussi. Donc
ouais,
je crois qu'au final
ouais,
ça amènera des gens, quoi.
Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, iTunes et Apple ont énormément contribué à la popularité des podcasts, hein, à
c'est
l'époque.
C'est ça, oui.
Voilà, podcast, ça vient d'iPod, hein, rappelons-le, quoi.
Exactement. Donc, et puis voilà, ils ont vraiment décollé quand Apple les a intégrés à iTunes. Donc
bon. Ouais.
Ça en tout cas, on vous tiendra au courant, ne serait-ce que pour vous supplier d'aller nous mettre des reviews dans le Play Store. Bon, vous savez quoi, on va sauter toute la partie sur le FBI et Apple et Microsoft qui a fait un procès au département de la justice américaine, enfin américain, pour pouvoir donner plus de détails sur les requêtes qu'ils obtiennent, et le gouvernement, enfin la police canadienne, qui a intercepté et décrypté des messages de BlackBerry qui étaient censés être le truc super sécurisé entre 2010 et 2012. Tout ça, c'est des histoires qui continuent à nous passionner, mais je pense qu'on peut sauter le truc aujourd'hui. Le truc que j'évoquerais, c'est des vignerons. Je disais la CNIL à propos du blocage administratif tout à l'heure. Je me demande si c'était effectivement la CNIL ou si j'ai pas misspoqué avec ce magnifique barbarisme que je vous fais. Oui, si, c'était bien la CNIL, mais la CNIL, en fait, a ajouté d'autres sujets, des sujets tech, toujours dans le sens des fans de la tech. Des vignerons nous a mis un lien, là encore, vers un rapport de la CNIL qui a établi sa position sur le chiffrement. Et en gros, ils ont dit que le chiffrement était nécessaire et important. Voilà, c'est toujours dans l'ambiance de cette question que se posent nos sociétés sur le chiffrement, eh bien la CNIL a dit très clairement, le chiffrement c'est important et on ne veut pas de backdoor. Donc voilà, encore un élément de plus à ajouter à nos réflexions. Je pense que c'est assez intéressant que la CNIL, qui est un organisme officiel extrêmement important dans la protection des consommateurs et des Français en général, exprime avec une telle force cette position en faveur du chiffrement et contre les backdoors. Voilà, écoutez, je pense que on arrive au terme de cet épisode qui aura finalement été bien dodu et assez intéressant, je crois. Avant de se quitter, on évoquait les podcasts sur Le Play Store, j'aimerais remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires et des reviews sur l'iTunes Store, notamment Arbjork du Mexique. Figurez-vous qu'on a des auditeurs dans tous les pays du monde, et en l'occurrence Arbjork, je ne sais pas comment on prononce son nom, nous dit qu'il nous écoute du Mexique et qu'il utilise le podcast pour pratiquer la compréhension orale en français. Merci à toi, et salut du Mexique, moi j'allais dire de France, mais en fait c'est salut de Kyoto. Merci aussi à Juve44 qui nous dit que le podcast est excellent et qu'il l'attend avec impatience. Donc un grand merci à vous tous. Merci aussi à tous les auditeurs et tous les patriotes qui contribuent au financement de l'émission. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas remercié les patriotes au milieu de l'émission. C'était très conscient, c'était pas un oubli. En fait, je discutais sur le Slack des patriotes avec un auditeur que vous connaissez peut-être, c'est Guillaume alias Guico, qui évoquait le fait en fait que entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, j'avais un ton un petit peu différent, et c'était pas du tout une critique en fait, mais il l'évoquait simplement, et ça m'a fait réfléchir au fait que j'ai toujours voulu que l'émission reste la même, et je me suis dit, c'était le point de départ de la réflexion, mais je me suis dit peut-être que change un petit peu la couleur de l'émission, cette histoire de patriote dont je parle. Je pense que maintenant les gens savent de quoi il s'agit, les gens savent qu'ils peuvent soutenir l'émission, donc c'est pas forcément la peine que j'en parle systématiquement au début, à la fin, au milieu de l'émission. Donc évoquer un petit peu au début, peut-être oublier au milieu pour que l'émission pour moi, l'important est toujours que l'émission soit la plus agréable, la plus fluide qui soit. Donc voilà, je me suis dit, on va essayer comme ça, sans faire l'interruption patriote au milieu. J'espère que ça vous plaira un petit peu plus. Et puis, vous inquiétez pas, je vous en parlerai quand même en milieu d'émission. En fin d'émission, pour vous rappeler que vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission si vous estimez qu'elle vous apporte quelque chose. C'est le modèle value for value. Ça vous apporte de la valeur. Vous pouvez rendre un petit peu de valeur sous forme de monnaie sonnante et trébuchante, et je vous en remercie évidemment. Donc voilà pour la partie Patreon. Un autre truc important, je pense que je vais publier la semaine prochaine une sorte d'épisode spécial que j'ai enregistré il y a quelques jours avec Stéphane Tual, qui est un spécialiste notamment de la blockchain. Ça fait un moment que je parle de la blockchain et qu'on en entend tous parler en fait. C'est cette technologie qui sous-tend les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Et on en entend beaucoup parler, il y a énormément d'investissements, énormément d'excitation autour de tout ça dans l'industrie tech, mais c'est très difficile à comprendre, on ne sait pas vraiment de quoi il en tourne, de quoi il s'agit, comment ça marche, à quoi ça sert, où ça peut aller. Donc je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un épisode spécial, d'avoir une discussion où on parlerait de tout ça, et il s'est trouvé que la discussion a été un petit peu longue, et que je me suis dit que ça ferait un très bon épisode spécial. Donc dans une semaine, il y aura un épisode spécial qui s'appelle « Comprendre la blockchain » qui va être rendu disponible dans le flux du rendez-vous tech. Donc, ça sera un épisode qui comptera pas pour le Patreon. Hein, vous inquiétez pas, ça sera pas tout à coup un épisode en plus dans le mois pour lequel vous paierez. Là, c'est un épisode spécial qui est pas compté comme pour les contributeurs au Patreon. Donc, il sera disponible la semaine prochaine, et je pense que c'est une super conversation. Vraiment, moi, ça m'a énormément aidé à comprendre de quoi il s'agit et à comprendre ce que ça peut devenir. Donc, j'espère qu'il vous plaira aussi. Tanoshiministe kudasai. Look forward to it. Il n'y a pas d'équivalent français. J'espère qu'il vous plaira. Il sera disponible la semaine prochaine. Les détails sur la blockchain.
À quand un rendez-vous tech en japonais, Patrick?
Itsudemoiyo. Itsu shimashouka, sono rendez-vous tech nihongo.
Écoute, je pourrais pas participer souvent, par contre, je suis désolé, mais je te soutiendrai ardemment.
Ah, c'est sympa.
À part dire je m'appelle Jean Clébert, tu vois, je sais pas quoi dire grand-chose.
Bah vas-y, c'est un bon début.
J'ai trop de mémoire. je sais plus. Ah voilà, bon, j'ai le jeu là, c'est la honte, je me paye la honte.
Oh, mais...
Je savais en plus. Bon. Comment je le dirais?
Watashi no namae wa.
Bah, c'est pas Watashi wa, Watashi
wa. Ah, si, tu peux aussi. Watashi wa Jean-Clébert Ludes.
Ouais, Watashi wa Jean-Clébert Ludes. Voilà.
Voilà. Ça. Donc, en plus du rendez-vous tech, vous avez un petit peu de japonais. si vous voulez dire je m'appelle quelque chose en japonais, c'est Watashi wa, blablabla, des.
Blablabla, des.
Exactement.
Exactement.
Bon, donc voilà, pour moi, j'ai fait toute ma petite liste de trucs dont je voulais vous parler. JK, tiens, puisque c'est la fin de l'émission,
c'est mon tour.
Dis-moi où on peut te retrouver.
Ouais. Donc on peut me retrouver toujours sur Twitter comme d'habitude à JK Lauret, JK LAURET, pour des sujets tech un peu plus comme aujourd'hui sur lesnumériques.com. J'en profite dans ton émission pour faire un truc un peu sale, mais j'ai fait une interview de Jeff que vous connaissez sans doute puisqu'il participe au rendez-vous tech, Jeff Clavier. J'ai interviewé Jeff sur son métier de VC dans la Silicon Valley, donc c'était super. Si vous voulez aller lire son interview sur les numériques, et ben c'est le moment.
Ouais, et très intéressante l'interview effectivement.
Oui, le but c'était vraiment de présenter ce métier parce que bon, on a un média nous qui est assez relativement grand public, donc qui est lu par plein de monde. Donc c'était intéressant qui nous présente vraiment ce qu'il fait, comment il le fait, comment il sélectionne les sociétés, etc. dans lesquelles il investit. Donc c'était vraiment très bien. Et sinon sur le podcast ZQSD, ZQSD podcast de jeux vidéo pour le coup, essentiellement PC. Prochain numéro apparaître très bientôt, où on parle de quoi déjà, ça fait longtemps qu'on l'a enregistré, je sais plus. Si on parle des jeux annulés, on parle de Dark Souls 3 notamment et de plein de choses comme ça, donc c'est super, et le prochain numéro arrivera sans doute d'ici la fin du mois.
Super, magnifique JK. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. Vous retrouverez entre autres le rendez-vous jeu que j'ai enregistré la semaine dernière avec JK Lauret lui-même.
Non, encore lui.
Où on parle beaucoup.
Ils sont drôlement marre les gens là, le mois.
Où on parle beaucoup de réalité virtuelle notamment. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode si vous pensez que le sujet peut vous intéresser. Et puis même si vous pensez pas, je suis sûr que l'émission vous intéressera. Et puis on se retrouve donc, comme je le disais, dans une semaine pour l'épisode spécial blockchain et dans deux semaines pour un autre épisode classique du Rendez-vous Tech. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est au Japon qu'on chôme. On a quand même, et puis j'ai d'autres petits trucs, bon, en préparation, pas forcément sur le Rendez-vous Tech, mais il est possible que je fasse un rendez-vous jeu spécial en plus des classiques pour un jeu qui sort dans pas trop longtemps et que j'affectionne particulièrement. Les habitués sauront de quoi il s'agit, mais on verra. Donc oui, effectivement, on chôme pas au Japon, hein, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez passer une excellente semaine et je vous fais plein de bises de Kyoto. Ciao à tous.
Salut.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.